Alors, je vais donc vous parler de la poétique du vide et du tragique du vide chez deux auteurs, l'un écrivain, poète surtout, et l'autre peintre, plasticien, Célan et Kiefer. Alors, je vais très rapidement vous donner baliser un petit peu mon chemin. Je vais d'abord vous évoquer la biographie très rapidement de Célan, mais parce que justement, elle nous amène à nous poser la question d'une vie vouée à la destruction et justement aussi au vide. Donc je vais évoquer cette biographie. Et ensuite, dans un second temps, je vais vous parler de ce que Célan appelle lui-même une contre-langue. Il a en fait créé une contre-langue, autrement dit, une langue de résistance. Dans cette langue de résistance, je vais vous parler trois moments: le choix de la langue, une mise en scène du vide, une mise en pièce de la langue et une rhétorique cryptée. Tout cela, c'est dans la contre-langue de Célan. Et je passerai ensuite à Kiefer, et Kiefer, dont je vous présenterai quelques toiles, qui, très étrangement, alors que Kiefer est beaucoup plus âgé que Célan, et qu'il a écrit après l'Holocauste, Kiefer, qui, en fait, dont les toiles entrent en résonance avec la poésie de Célan. Alors, les quelques éléments de biographie dont je vous parlais, que je vous proposais, et d'abord, pour commencer, un préambule, la question du vide est centrale tant dans le poème de Célan que dans l'étoile de Kiefer, bien qu'ils prennent une forme très très différente et très singulière, parce que ces deux artistes, sont de sensibilités très différentes. L'un juif, Célan, dont la famille a été assassinée dans les camps, l'autre né en 1945, catholique, allemand, peintre plasticien, dont le père a été officier dans la Wehrmacht. Mais leurs œuvres sont l'une et l'autre, toutes deux traversées par le traumatisme de la Shoah. Alors Paul Célan, de son vrai nom, Paul Pessard Hanschel, qui signifie le passeur, est un poète roumain d'origine juive, né en 1920, à Cernovic, en Bucovine, qui était une ancienne province de l'Autriche-Hongrie, devenue roumaine en 1918. Sa mère est issue de la bourgeoisie germanophone, très attachée à l'Empire des Habsbourg, avec elle il va apprendre le haut allemand à l'époque où la ville était germanophone. Son père appartenait à une communauté juive très stricte, d'origine ukrainienne, qui pratiqua l'hébreu et le yiddish. Donc d'un côté l'allemand, la langue maternelle, de l'autre côté le yiddish, l'hébreu, rattaché entièrement à la communauté juive et au chassidisme, un mouvement juif qui est né d'ailleurs au XVIIIe siècle. Donc il n'est pas, si vous voulez, il y a une sorte de partition dans la mesure où la ville de Bucovine est peuplée pour moitié d'habitants juifs, certains d'ailleurs issus de l'époque des Lumières, des partisans de mouvements juifs des Lumières, et puis orientés vers la culture allemande, et de l'autre côté, eh bien, il y a le père qui, en fait, est très attaché à tout un mouvement un mouvement juif qui est en même temps un mouvement qui est très assimilé à la Roumanie de l'époque. Donc, je dirais que le yiddish et l'hébreu lui ont été inculqués par son père, alors que l'allemand il y est très attaché, bien entendu, du côté de sa mère. Alors, je passe un petit peu rapidement. Il va étudier la littérature romane, la langue romane. Il part en France. Il revient, il y est en 39 quand la guerre le surprend. Et à ce moment-là, son père et sa mère sont arrêtés, déportés et périr. Le premier du typhus dans un camp en 42 et sa mère tuée, semble-t-il, par une balle dans la nuque en 1943 dans un camp de concentration. Lui échappe au camp, mais n'échappera pas au travail obligatoire, et où il va casser des pierres, dit-il, creuser sans arrêt, un mot clé de son lexique. En 1946, il faut le préciser, il adhère au cercle surréaliste que Gerasim Luka, dont je vais vous parler très vite tout à l'heure, a fondé, lui aussi poète juif francophone apatride, roumain parlant yiddish. Enfin, ils sont vraiment, il y a ici deux profils tout à fait semblables, et puis de même que ce sont aussi deux profils du point de vue de l'œuvre très très semblables. Vous en verrez tout à l'heure un exemple. Alors après la guerre, il part, il s'exile, d'abord à Vienne, ensuite à Paris, et c'est à Paris que se joue la culture, à l'époque, la culture qui renouvelait le renouveau de la culture, non sans toutefois être entachée d'antisémitisme. Il voyage, il fait des lectures, il traduit. Celan est un poète traducteur. Et je crois que c'est très important, parce que lui qui est blessé à mort, lui qui dont la mémoire est extrêmement fragile encore, et tout en faille, en silence, en blessure, il me semble que ce rapport à la traduction est une façon pour lui de s'ouvrir à l'altérité. Et il y a un véritable dialogue qui s'instaure entre lui et les poètes qu'il traduit. Alors, il y a André Dubouchoff, il y a énormément de poètes qu'il va traduire et qui sont aussi des frères en filiation. Il y a Apollinaire, il y a Dubouchet, Valéry, Sioran, René Char, etc. Tous les grands de l'époque, et tous les grands aussi, dont la poésie est aussi hermétique, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être déchiffrée, mais déchiffrée d'une certaine façon. Je veux dire qu'elle est hermétique, elle est, par exemple, Sioran, par exemple, René Char, pardon, et poésie difficile, exigeante, hermétique aux non-initiés, je dirais, mais en même temps, je crois que, comme pour Celan, il faut savoir y entrer avec patience et s'abîmer un petit peu dans la contemplation du monde intérieur de l'auteur et des projections qu'il peut avoir en nous. Et c'est pour ça que la traduction est tellement importante pour lui. En 1953, une affaire navrante va le terrasser pratiquement. Il est accusé de plagiat par la femme d'Ivan Gol, qui était un ami à lui, et il va être extrêmement déprimé et se sentir très persécuté, victime de persécution. En 1967, désillusion terrible, c'est la rencontre avec Heidegger. Il espérait que Heidegger, qui a bien entendu été très proche du nazisme, il espérait que Heidegger aurait eu un petit mot, sinon de compassion, du moins d'excuse. Mais le silence de Martin Heidegger est terrible. Heidegger ne dira rien. Il ne sortira rien de cette rencontre, rien, le vide de cette rencontre. Il lui écrira d'ailleurs un poème après la rencontre dans la hutte, et ce poème, qui sera d'ailleurs traduit par André Dubouchet, est une sorte de mosaïque. Le mot mosaïque aussi me semble important, parce que la poésie de Celan, c'est un petit peu une sorte de mosaïque, de citations, de collage, pour ainsi dire, de citations, de mots, de syllabes. Et on est vraiment là dans une poétique de la fragmentation, et donc du vide intermittent, évidemment. Et donc le poème qui sera traduit à Heidegger, qui sera traduit, enfin pour Heidegger, qui sera traduit par André Dubouchet, eh bien il y a des allusions à la Shoah, comme l'image du rondin qui revient sans arrêt pour désigner les morts que les bourreaux font aligner dans les fosses et que l'on entasse pour les brûler, rappelant la tradition juive qui désigne les morts par des troncs d'arbres brisés. Le rôle des larmes que Heidegger ne versera pas dans la tradition juive et son rapport au sacré. Il y a tout ça dans ce poème, cette espèce de mémorial à Heidegger. Et puis, encore une désillusion, même rendez-vous manqué avec Adorno dans les Alpes suisses. On connaît sa position, à savoir qu'il est impossible d'écrire après Auschwitz. C'est vrai qu'il reviendra sur cette déclaration un petit peu plus tard, et Celan va écrire un texte magnifique, Entretien sur la montagne, entièrement tissé à nouveau de références littéraires, gorgées de figures de rhétorique, métaphores, jeux de mots, néologismes, allusions à la mythologie, à la tradition juive, une sorte de jargon codé dans la langue de Moïse, accessible aux seuls initiés. Alors, il y a du trop-plein là, mais justement, dans les interstices de ce trop-plein sont les failles, sont les silences. Et c'est ces failles, ces silences qu'il faut savoir écouter. C'est blanc, bien sûr. Quant à sa judéité, elle relève plutôt, selon Lukács, d'un athéisme religieux où Dieu est la figure de l'absence, du vide, à moins qu'il ait été enseveli dans la mort avec ses victimes. En 70, saut dans le vide, ultime saut dans le vide, il se précipite dans la Seine et il se noie non loin du pont Mirabeau, qu'il avait, poème sur le pont Mirabeau coule la Seine, poème d'Apollinaire qu'il avait lui-même traduit. Voilà. Donc vous voyez cette vie jonchée de malheurs, mais de malheurs qui relèvent du manque, de la perte, de la mort, de l'absence, de la désillusion avec un dé privatif et également de la persécution. J'oubliais de vous dire aussi qu'il est atteint de délire à peu près au moment de l'affaire Gol et il sera interné d'ailleurs deux fois, je crois, dans un hôpital psychiatrique. Donc on a là réellement un tracé tragique où le vide ici suit son cours et relève lui aussi d'une sorte de tracé parallèle au tragique. Alors je vous proposais maintenant de vous parler de cette contre-langue, comme Celan l'appelle justement. Cette contre-langue, vous voyez déjà un exemple, je voulais absolument vous le montrer et le lire aussi, si j'arrive, malgré ma voix. Il faudrait d'ailleurs pouvoir lire le gras de façon plus forte que le reste, mais bon, pas une voix, un bruit tardif, étranger aux heures, offert à tes pensées, ici, enfin, ici éveillé, une feuille fruit de la taille d'un œil profondément entaillé. Elle suinte, ne veut pas cicatriser. Grille de parole, 1959. Et je commencerai par le choix de l'allemand. Paul Celan est polyglotte, je l'ai dit tout à l'heure, ou en tout cas je l'ai laissé entendre. À la croisée de plusieurs langues et de plusieurs cultures, outre l'allemand, il pratique le roumain, l'hébreu, le yiddish, le russe, le français. Il sera naturalisé en 1955 et il parle parfaitement le français. Et pourtant, il a choisi de faire de l'allemand, la langue de ses bourreaux, sa langue d'expression poétique. Sa langue d'expression poétique, parfaitement conscient du fait qu'il y a danger à s'exposer, particulièrement conscient aussi du problème que pose la réception de son œuvre. Mais voici ce qu'il dit, je cite, « Je tiens à vous dire combien il est difficile pour un juif d'écrire des poèmes en langue allemande. Quand mes poèmes paraîtront, ils aboutiront bien aussi en Allemagne. Et permettez-moi d'évoquer cette chose terrible. La main qui ouvrira mon livre aura peut-être serré la main de celui qui fut l'assassin de ma mère. Et pire encore pourrait arriver. Pourtant, mon destin est celui-ci, d'avoir à écrire des poèmes en allemand. Une lettre de 46. George Steiner, critique et philosophe, immense érudit, polyglotte lui aussi, d'ailleurs ses parents, entre parenthèses, lui donneront un bagage de langues, allemand, français, anglais, latin, grec, il lit l'Iliade dans l'original, tout ce bagage-là afin de lui permettre de franchir les frontières s'il était poursuivi comme juif. Donc il a toutes les langues et il pourra passer de frontière en frontière pour pouvoir se sauver et sauver sa peau en quelque sorte. Eh bien Steiner, je ne sais pas comment il faut dire, mais je dis Steiner. Je devrais dire Steiner. Et voici ce qu'il écrit. J'ai essayé de passer ma vie à comprendre pourquoi la haute culture n'a pas pu enrayer la barbarie. Pourquoi elle en a été si souvent l'alliée, le décor, le cœur, au centre du cœur, au sens du cœur d'une tragédie grecque. Mais surtout, il va nous livrer une formule décisive sur le choix linguistique de ces langues. Pour lui, pour Steiner, la seule langue par laquelle on puisse tenter d'approcher l'horreur d'Auschwitz, c'est en écrivant, je cite, « du dedans de la langue de mort elle-même ». Et la langue de mort y a des tirés. En explorant toutes les possibilités de la transformation de ce code pour en faire une autre langue, une contre-langue. Et la contre-langue pour Celan, c'est une langue de résistance. C'est le témoignage d'une absence, mais c'est une langue de résistance. La poésie de Celan, je le disais, ne peut pas cicatriser, ne veut pas cicatriser. C'est une plaie ouverte, c'est une béance, c'est une plaie béante qu'il nous donne à voir et dans laquelle on s'immisce un petit peu parfois par effraction parce que ça n'est pas toujours facile à déchiffrer. Je vais évoquer maintenant la mise en scène du vide. Pour Paul Celan, il est impossible de mettre en mots l'expérience de la Shoah, sauf à la déconstruire, plus exactement la langue de mort. Sauf à déconstruire la langue de mort, je cite des maîtres d'Allemagne dans un poème que je vous citerai tout à l'heure, sauf à la cribler de trous, à la vider de son sens pour faire surgir ses failles, ses blancs, pour faire surgir également la syncope, les syncopes continuelles de cette langue qui a un rythme saccadé, qui est le contraire de la fluidité. Et vous le voyez ici, ne serait-ce que les deux points, les points-virgules, dans un poème habituel, entre guillemets, ou traditionnel, on n'a pas ces choses-là, cette ponctuation qui, au milieu du poème, fait une sorte de dentaille, bon, etc. En fait, Celan va... Et encore, excusez-moi, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que je vous donne à lire les poèmes les plus lisibles, parce qu'il y en a qui sont vraiment très illisibles, mais non pas indéchiffrables, je le répète. Son écrit, donc Celan va disloquer les mots, il va creuser des vides, il désarticule la syntaxe, il brise l'harmonie. C'est de l'ordre du cri, du bredouillement, du balbutiement, comme pour mieux signifier que le sens est définitivement blessé, que la langue est blessée et que le sens ne peut plus faire irruption que dans les failles, dans les manques, dans le silence. Je cite Régine Robin, qui a écrit un très beau livre sur le deuil de l'origine. En fait, Paul Celan pulvérise la langue, il l'atomise jusqu'à créer une langue unique, une langue secrète, quasiment une langue étrangère, qui ne peut que bégayer, rose de personne, personne. Inutile de dire à quel point on est encore dans le vide. S'il venait, venait un homme au monde, aujourd'hui, avec la barbe de clarté des patriarches, il devrait, s'il parlait de ce temps, il devrait bégayer, seulement bégayer, tout, toujours bégayer. Rose de personne, 1963. Alors, là, je vous disais que j'allais faire une petite, un petit rapprochement avec Gherasim Luca, qui lui aussi est un poète roumain, un juif, apatride, suicidé lui aussi dans la Seine, quelques années plus tard après Paul Celan. Et Gilles Deleuze et Félix Guattari, en 73, souligneront à quel point ce poète atypique, iconoclaste, révolté, presque nihiliste d'ailleurs, affirme sur tous les tons, je cite, son refus barbare de toutes les barbaries du monde. Et pour Deleuze et Guattari, son bégaiement renouvelle la poésie en portant le langage aux limites et en taillant dans sa langue une langue étrangère. Et c'est exactement ce qu'on peut dire aussi de Paul Celan. Alors, vous voyez là le vide, vous avez là toute une symphonie de vide avec des déclinaisons diverses qui sont dues à Gherasim Luca dans un poème qui s'appelle « Héros limite ». Si la parole de Gherasim Luca est éminemment poétique, c'est parce qu'il fait du bégaiement un affect de la langue et non pas une affection de la parole. C'est toute la langue qui file et qui varie pour dégager un bloc sonore ultime, un souffle, un seul souffle, à la limite du cri. Donc un écho tout à fait intéressant entre les deux auteurs. Je vais parler maintenant de la mise en pièce de la langue. Celan va très loin dans le meurtre rituel de la langue oni. Il va rendre la langue des bourreaux méconnaissable, fécondée et contaminée de mots étrangers. Quelle souillure pour la pureté arienne. Et des mots qui exploitent l'altérité dont je parlais tout à l'heure. Le yiddish, mélange d'allemand et d'hébreu, des roumanismes, du russe, des mots de passe, chibolette, dont je vais vous parler, mais aussi des mots ancrés dans la culture juive, vous en avez deux ici, dans la culture de la Bible, des mots aussi appartenant à des poètes qu'il aime, comme Mandelstam, comme Heine, etc. Il introduit, ça me paraît très important, une hétérogénéité qui ouvre l'œuvre à l'altérité et qui, je le répète, pour les nazis, pour la langue allemande, est une atteinte à la pureté de cette langue, et c'est en même temps d'une certaine façon cette langue de Celan un cheval de Troie bourré de dynamite, rempli de signes obscurs d'identité, de vocables perdus, etc., etc. Il y a ici une mise en accusation implacable et définitive de la langue et de la culture allemande dont la Shoah était l'aboutissement. Je cite Jean Pollock, qui a parlé aussi de Celan. Auprès de mille idoles, j'ai perdu un mot, la perte qui me cherchait. Kaddish, majuscule, minuscule. À travers l'écluse, j'ai dû passer pour sauver le mot, le replonger au flot salé, le sortir, le faire franchir. Iskor. Je voulais aussi vous signaler que Pessar, le nom d'origine de Celan, signifie le passeur. Et il y a aussi beaucoup d'éléments ici qui font référence au passage. Je voulais vous parler aussi de la perte, la perte du mot par rapport au poème précédent. Les mots, écrit Walter Benjamin, ont mué. Leur sens s'est effondré d'abîme en abîme, jusqu'à risquer de se perdre dans le gouffre sans nom et sans fond du langage. Jacques Derrida a consacré un livre que je trouve fascinant à Paul Celan, en reprenant le titre de l'un de ses poèmes, Shibboleth, qui signifie « mot de passe » en hébreu. Il y développe une idée évoquée par le poète, celle d'une langue circoncise, la circoncision de la langue. « À lui, écrit Paul Celan, j'ouvre ma parole. À celui-ci, circoncis le mot. » Paul Celan, qui est ici cité par Derrida. Qui dit circoncision de la langue, dit aussi incision dans le corps de la langue, individuel et collectif. La parole circoncise, je cite, est d'abord écrite, à la fois incisée, excisée dans le corps, qui peut être le corps d'une langue, et qui en tout cas lie toujours le corps à la langue. Parole entaillée, entamée, blessée, parole découpée, écrite, césurée, mais non censurée. Pour Celan, qui écrit donc après Auschwitz, l'allemand, qui est la langue de l'exil, d'un exil qui s'est fait deuil, et au fond, il a dû, d'une certaine façon, faire le deuil de l'allemand, de la langue maternelle de sa mère, pour adopter l'allemand, la langue de ses bourreaux. Et écrire un poème après Auschwitz est barbare. Non, dit Adorno, non, répond Celan. Écrire est essentiel pour survivre, mais surtout pour résister et pour porter témoignage. Le témoin ne porte pas témoignage pour le témoin. C'est une phrase un peu... que je reprendrai peut-être tout à l'heure, si j'en ai le temps, mais ce n'est pas très grave. Et ton œil, vers quoi se tient-il ton œil? Ton œil se tient face à l'amande. Ton œil face au rien se tient, soutient le roi. Ainsi il se tient. Boucle d'homme, tu ne grisonneras pas. Amande vide, bleu roi. Rose de Personne, 1963. Bien. Alors, je vais très rapidement vous évoquer, au fond, les figures de rhétorique qui sont le troisième moment de la contre-langue de Celan. Où il va utiliser des métaphores, des allégories, des allusions, l'allusion aussi, des anagrammes, des paronomases, par exemple, stehen, qui veut dire se tenir, et en même temps stehen, qui est le manque. Vous voyez, il joue sur la langue d'une façon absolument étonnante, et c'est pour lui aussi une façon de se tenir quand même à distance. C'est la transition avec Kiefer. Le lieu où ils étaient couchés, il a un nom. Il n'en a pas. Il n'y était pas couché. Quelque chose était entre eux. Il ne voyait pas au travers. Ne voyait pas, non, par les mots. Aucun ne s'éveilla. Le sommeil vint sur eux. Cendre, cendre et cendre. Nuit, nuit et nuit. Grille de parole nous introduit donc ici à Anselm Kiefer. Alors, Anselm Kiefer, sa problématique, c'est comment, après l'Holocauste, être un artiste qui s'inscrit dans la tradition allemande. Je vous disais que son père avait été membre de la Wehrmacht, des SS, et qu'il est en fait obsédé, totalement obsédé, par le problème du mal, et puis par le passé nazi de son père. Et Anselm Kiefer s'affirme enfant de la Shoah. Et il ne cesse de le hurler. C'est une catastrophe dont il assume a posteriori la culpabilité. Il va mettre en scène un univers concentrationnaire, voilà, concentrationnaire, hérissé d'arbres calcinés. Vous voyez, ce sont des tournesols, mais c'est aussi des arbres. Et il y a là un homme couché qui regarde le ciel, mais le ciel ne lui renverra pas la lumière. C'est un paysage pétrifié, d'où toute présence humaine est abolie, un sale craquelé, des champs lacérés par les bombes, dont les lignes de fuite se confondent avec les rails d'Auschwitz. Ce sont des blocs, il faut le dire aussi, de matière picturale, composée de couches cruteuses, de rugueuses, plâtreuses, faites de plis et de replis, dans lesquels se cache la fleur de cendre de ces lents, des champs labourés aussi par les bombardements. Ce sont également, comme vous allez le voir là maintenant, des paysages désolés, comme cette peinture, cette toile, terrifiante aussi d'ailleurs, qui a une noirceur mûrie, comme il dit, une noirceur mûrie qui hante ces champs abandonnés. Un énorme fagot de bois ici est placé en équilibre sur des chaises qui sont, vous les voyez, collées à la toile. Elles produisent un volume, une épaisseur visuelle et en même temps, il y a une ligne de fuite et une ligne de fuite qui, au fond, va d'une certaine façon dériver vers un horizon noir. Le bateau solaire. Je pense que c'est le bateau solaire, mais de toute façon, c'est difficile de reconnaître des objets figuratifs dans ces toiles qui sont qui est tellement compacte et où les objets, au fond, ne sont là que pour traduire la ruine et la dévastation. Le bateau solaire donc va représenter. Alors, il est fait de tournesol, de plomb, de cendre, une asperge. Oui, c'est bien le bateau solaire, etc. Donc, vous voyez, on a vraiment une matière de la nature, une matière palpable. Vous voyez ici un avion en plomb, on va supposer, et autour les champs. Ces champs cultivés qui sont un motif récurrent dans l'œuvre de Kiefer parce que c'est une référence à la campagne allemande transformée par des siècles de culture et de labour. La surface pleine de marques et recouverte de cendres, le bateau solaire qui est typique des peintures de Kiefer évoque la dévastation provoquée par les bombardements aériens de la Deuxième Guerre mondiale, par l'Holocauste et après plus tard aussi il parlera de la bombe atomique. La chaise vide, un ciel de nuit, un ciel d'oubli, un ciel d'orage, violence des gris de plomb, des noirs de suie, des blancs de sel de ce paysage désert et immobile. La toile est hérissée, c'est vraiment quelque chose qui relève de la violence, d'une violence qui sort de terre en quelque sorte. L'argile est craquelée et il y a des ceps de vigne qui ressemblent en tout cas à des ceps de vigne, calcinés, qui sont pareils à des corps décharnés et nus, et devant ces ombres effrayantes, effroyables, une chaise blanche qui restera vide à jamais, quelques cheveux tout autour qui sont des cheveux de cendre. Je vais vous lire le célèbre poème de Paul Celan, une partie du célèbre poème, parce qu'il est long. Et je regrette infiniment de ne pas pouvoir vous lire tous ces textes en allemand, bien entendu. Ça s'appelle « Fugue de mort » et vous allez voir que ce poème de Celan est en parfaite osmose, je pourrais dire, avec l'étoile de Kiefer. Donc je n'oublie pas Kiefer, ne vous inquiétez pas. C'est un poème terrible sur les camps de concentration, la famine, la destruction, la mort, etc. Je n'ai pas la peine de paraphraser. Le texte est assez explicite. Les noirs du petit jour, nous te buvons la nuit, nous te buvons midi et matin, nous te buvons le soir, nous buvons et buvons. Un homme habite la maison qui joue avec les serpents, qui écrit quand il fait sombre sur l'Allemagne. Tes cheveux d'or, Margaret, tes cheveux de cendre sous la mythe. Nous creusons une tombe dans les airs, on y couche à son aise. Il crie « Creusez plus profond la terre, vous les uns et les autres, chantez et jouez !» Il saisit le fer à sa ceinture, il le brandit Ses yeux sont bleus. Creusez plus profond, les bêches, vous les uns et les autres, jouez encore et qu'on y danse. Les noirs du petit jour, nous te buvons la nuit, nous te buvons midi et matin, nous te buvons le soir, nous buvons et buvons. Un homme habite la maison, tes cheveux d'or, Margaret, tes cheveux de cendre, sous la mythe. Il crie, jouez la mort plus doucement, la mort est un maître d'Allemagne. Il crie plus sombre, les accents des violons, et vous montez comme fumée dans les airs, et vous avez une tombe dans les nuages. On y couche à son aise. Les noirs du petit jour, nous te buvons la nuit, nous te buvons midi, la mort est un maître d'Allemagne. Ses yeux sont bleus, il te touche avec une balle de plomb, il te touche avec précision. Un homme habite la maison, tes cheveux d'or. Margaret, tes cheveux de cendre, sous la mythe, il lâche ses chiens sur nous et nous offre une tombe dans les airs. Il joue avec les serpents, il rêve, la mort est un maître d'Allemagne. Tes cheveux d'or, Margaret, tes cheveux de cendre, sous la mythe. Cette fugue de mort, où il est question évidemment, façon de parler, il y avait un orchestre qui jouait, on demandait à un orchestre juif de jouer, pendant qu'il jouait des tangos et toutes sortes de choses, les autres creusaient leur propre tombe, et donc il fallait qu'ils jouent, qu'ils creusent au rythme de la musique, évidemment. On voit là aussi toutes les références, dont je n'ai pas le temps de parler bien sûr, à la musique, à Schubert, La jeune fille et la mort, etc. Malheur, Kinden, Totter, Lieder, etc. Donc, je vais terminer en disant qu'ici, vous voyez à quel point, non, je ne dirais sûrement pas que la peinture de Kiefer est une illustration des poèmes de Celan. Reprenant une expression de Breton, je dirais qu'il y a une exaltation réciproque ici entre la poésie et la toile, entre la poésie et la peinture. Il y a un système d'écho. Et puis alors surtout, ce que je trouve aussi très poignant, c'est que La fugue de mort, qui était le livre de chevet de Kiefer, nous dit-il, ce que je trouve poignant, c'est l'inscription de citations de Celan à l'intérieur de la toile. C'est comme une signature, au fond, et une signature qu'il va s'approprier. Et cette Margaret, bien sûr, c'est la Margaret de Faust, c'est la blondeur arienne, et la Soulamite, c'est celle du Cantique des Cantiques, la sombre Soulamite. C'est au fond cette osmose en laquelle Celan croyait tellement, judéo-allemande, puisque je vous l'ai dit à quel point elle était proche de l'allemand, de la culture allemande, et aussi de la culture de l'hébreu, etc., du juif, de la culture de la Bible. Et cette osmose-là, qui n'a jamais eu lieu, bien entendu, eh bien, elle est ici, d'une certaine façon, sauvée. Il faut bien, dans le vide, dans le manque, l'absence, le rien, il faut bien qu'elle soit sauvée, d'une certaine façon, par cette sorte de poème épitaphe, à l'intérieur même, fragment de poème épitaphe, à l'intérieur même de ces chants calcinés dont on peut penser que peut-être ils fleuriront un jour avec des tournesols que Kiefer a peint aussi à un moment de sa vie. Je vous remercie.